Ça commence par le premier ministre, ça poursuit avec les ministres, les responsables dans les réseaux. Ça doit être plus clair qu'il faut être imputable.
C'est un stress parce que là, disons, on en donne juste une canne par enfant. C'est bien beau, mais dans une semaine et demie, ma canne va être vide.
Bonsoir. On vous en a parlé hier. La coroner Jeanne Kamel a dévoilé son rapport final sur l'hécatombe dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie. La coroner est particulièrement cinglante à l'égard des gestionnaires du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal qui n'ont pas su éviter la catastrophe au CHSLD Heron à Dorval où 47 résidents sont morts en quelques semaines. Eh bien, ce rapport crée des remous aujourd'hui. La PDG du CIUS en question, Lynn McVeigh, annonce qu'elle va quitter ses fonctions à la fin juillet. Le premier ministre François Legault a été interrogé sur le sujet alors qu'il était de passage à Laval. Anaïs Elbouchedani a assisté à son point de presse. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Noémie.
C'était la première fois que le premier ministre réagissait au rapport de la coroner dévoilé hier.
Oui, c'était dans le cadre d'une sorte de tournée qu'il a amenée à Laval aujourd'hui. Là, je me trouve devant l'hôtel de ville où ça s'est passé. François Legault a dit que son gouvernement allait revoir avec attention les recommandations de la coroner Jeanne Gamel. Mais déjà un peu plus tôt aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a dit que des changements allaient être mis en place rapidement. Et tu le dis un peu plus tôt aujourd'hui, bien, la PDG du CIUS responsable du CHSLD privé, Heron, a dit qu'elle ne se représenterait pas pour un second mandat. C'était par voie de communiqué de presse. Et une des recommandations de la coroner, bien, c'était de convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés, donc en partenariat avec le public. Pour François Legault, c'est important de donner une meilleure qualité de soins, peu importe le type de CHSLD, et aussi de savoir qui est responsable de quoi. Je vous laisse l'entendre.
Il y a dans le plan qui a été déposé par Christian Dubé une volonté que tout le monde soit plus imputable. Bien, c'est d'en haut jusqu'en bas. Donc, ça commence par le premier ministre, ça poursuit avec les ministres, les sous-ministres et les responsables dans les réseaux, incluant, bien, si on parle du réseau de la santé, les PDG des CIS et des CIUS. Donc, ça doit être plus clair qu'il faut être imputable de ce qu'on s'occupe, mais... Le premier ministre, puis même le ministre de la Santé, ne peut pas commencer à s'assurer de gérer ce qui se passe dans chacun des établissements de santé au Québec, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir. Puis quand quelqu'un gère pas bien, bien, il faut changer de gestionnaire.
Et puis, Anaïs, les récentes fusillades qui ont eu lieu à Laval ont aussi retenu son attention.
Elles ont fait les manchettes, malheureusement, et aussi occupé une partie de la conversation entre le premier ministre et le maire de Laval. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'une des priorités, bien, c'est la prévention. Déjà, les organismes communautaires, les écoles font partie du coup. Je vous laisse entendre le premier ministre suivi du maire Stéphane Royer.
Il y a eu des arrestations qui ont été faites. Il y a eu aussi des saisies d'armes. Puis là, bien... J'en profite aussi pour demander l'aide du gouvernement fédéral parce que les armes rentrent par la frontière. Puis ça, c'est de la responsabilité du gouvernement fédéral. Puis il y a de la prévention à faire. Moi, je trouve ça inquiétant de savoir qu'il y a des gangs de rue qui recrutent des jeunes au niveau secondaire pour venir commettre des crimes.
Ce que j'aimerais rassurer aussi la population, c'est ce qu'on voit, c'est que la plupart des événements sont liés. Donc, c'est pas de la violence gratuite. On a quand même doublé le département des enquêtes au niveau de notre service de police qui fait le suivi des armes à feu et de la criminalité organisée. Donc, on prend ça au sérieux.
Et Noémie, ce que je veux dire, c'est que cette journée, elle avait quand même une saveur électorale. Le premier ministre va faire une tournée des régions pour savoir un peu ce que les maires veulent. Donc, il va falloir surveiller ça là, dans les prochains mois, à savoir ce qui va être promis.
D'ici les élections d'octobre. Merci, Anaïs.
Merci.
Notre collaborateur Yves Boisvert se joint à nous. Bonsoir, Yves.
Bonsoir, Noémie.
On va revenir sur le dossier le rapport de la coroner sur les CHSLD. C'est le dossier non seulement du jour, mais de la semaine, du mois et peut-être même de l'année. La PDG, donc, du CIUS de l'Ouest de l'île, qui est a pris le contrôle pendant la première vague de la pandémie du CHSLD Heron, où vraiment l'hécatombe a eu lieu.
Ouais.
Elle a annoncé qu'elle va quitter ses fonctions cet été. Elle avait pas le choix de partir ou c'est un bouc émissaire pratique dans les circonstances?
Les deux.
Les deux.
C'est-à-dire que je pense que quand le gouvernement, les gens au gouvernement ont reçu le rapport de Jeanne Kamel, ils ont poussé un grand soupir de soulagement. Parce que il y a aucun blâme vraiment qui est adressé au gouvernement. Et même Marguerite Blais est vantée par la coroner comme ayant été crédible, même si, comme elle dit, son discours était un peu formaté. C'est-à-dire qu'un peu encadré politiquement, mm-hmm. mais pour expliquer comment ça a commencé. Et donc, au fond, ce qu'elle dit, la coroner, c'est que l'état des lieux était déjà prêt pour le désastre qui est arrivé. Maintenant, pour ce qui est du CHSLD Heron lui-même, quand ça a commencé, quand ça a éclaté dans la Gazette, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je me souviens très bien de la conférence de presse de François Legault.
Oui, le ton avait changé.
Eh bien, il a dit, écoutez, c'est une hécatombe, c'est très grave. Ça ressemble à de la négligence criminelle. On n'était pas au courant. Et effectivement, au niveau du premier ministre, ils n'étaient pas au courant. Ils recevaient l'information du CIUS.
Ouais.
Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça faisait 10 jours que le CIUS était là.
Ouais.
Parce que le CHSLD, qui était un endroit mal géré, ça, il faut le dire, mm-hmm. c'était un endroit où il y avait beaucoup d'incompétence et de négligence.
Bien, il n'était pas équipé pour affronter une pandémie.
Non, mais même pour faire le travail de base, non plus. Mm-hmm, mm-hmm. Cela dit, quand ça a commencé, quand ils ont eux-mêmes constaté les troubles, ils avaient alerté le CIUS. Et le CIUS était là. Donc, le CIUS a fait comme si, mon Dieu, on apprend ça dans le journal, c'est épouvantable, on va s'en occuper. Il y a même eu cet appel bizarre au 911 mm-hmm. par la responsable du CIUS pour dire, écoutez, venez ici, venez enquêter. Alors qu'ils étaient déjà là.
Mais donc, dans ces circonstances, elle part parce qu'elle est blâmée presque en toutes lettres, pas nommément là, par la coroner.
Exactement. Mais
la coroner dit, vous aviez le contrôle de l'institution.
Oui. Vous avez essayé de faire passer ça sur ce CHSLD privé, mal géré, avec tous les reproches qu'on peut lui faire. Mais au fait, en passant, le CIUS continuait à envoyer des patients là-bas. Le CIUS n'enquêtait pas bien là-bas.
Oui, oui.
Et donc...
Mais donc, pour François Legault, puis le ministre de la Santé, Christian Dubé, ce soulagement-là vient du fait qu'eux ne sont pas écorchés.
Non.
Est-ce qu'elle aurait pu être plus critique, la coroner, ou c'était pas vraiment son rôle?
Je pense que c'est possible, mais Noémie, écoute, ma théorie à moi, c'est que n'importe quel parti, dans les mêmes circonstances, aurait écouté la machine de la santé. Et puis... ça faisait des années qu'il y avait de la négligence dans les CHSLD. Donc, ce serait facile de blâmer le gouvernement en place, mais c'est être préparé depuis très longtemps, ou plutôt impréparé depuis longtemps.
Sur l'indépendance de la santé publique, brièvement...
je pense que ça, c'est un message...
Sauf que c'est dans son rapport à la coroner.
C'est dans son rapport, mais François Legault n'a pas trop élaboré là-dessus. Mais ça, c'est important aussi.
Oui, parce que ça n'a pas été réglé. Toujours pas indépendant,
pas du tout.
Directeur national de santé publique.
Même si on ne le voit plus à côté de M. Legault.
Merci beaucoup, Yves. À bientôt. Bien, le président américain Joe Biden et sa femme Jill Biden se sont recueillis sur les lieux de la tuerie raciste de Buffalo, dans l'État de New York, où 10 personnes noires ont été abattues samedi. Le couple présidentiel a rencontré des familles des victimes, des membres des équipes de secours et des responsables locaux. Joe Biden a déclaré que cette tuerie raciste était un acte de terrorisme et il a dénoncé le poison que constitue l'idéologie du suprémacisme blanc. On va faire le point sur la guerre en Ukraine au 83e jour du conflit. Le Canada impose de nouvelles sanctions. Il y a environ 1000 Russes, dont le président Vladimir Poutine lui-même et certains de ses comparses, qui ne pourront pas entrer au Canada en raison de l'invasion qui sévit là-bas, bien sûr. Pendant ce temps, ça semble être le calme plat à Mariupol au lendemain de l'évacuation de plus de 260 combattants ukrainiens. Sabrina Rivet est avec nous pour faire le point. Bonsoir.
Bonsoir, Noémie.
Donc, on n'en sait pas davantage aujourd'hui sur de possibles évacuations?
Les deux capitales, Kyiv et Moscou, sont extrêmement discrètes, même je pourrais dire silencieuses aujourd'hui en lien avec cette opération d'évacuation, parce que j'en parlais hier pendant le 22 heures, c'est-à-dire qu'on voit même les images à l'écran. On voyait, c'est plus de 260 personnes qui ont pu être évacuées de l'usine Azovstal, donc vraiment en plein cœur de Mariupol. C'est vraiment un des derniers bastions, en fait, cette ville qui complètement été détruite, en fait, par le régime russe. Et là, tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, dans le fond, très peu de nouvelles par rapport à l'Ukraine. Ce qu'on nous dit, c'est que On travaille actuellement sur les prochaines étapes pour sortir les civils qui sont toujours coincés dans l'usine d'Azovstal. Sinon, la Russie nous a donné un peu le même bilan, c'est-à-dire 260 personnes qui ont été évacuées. Sinon, si je vous parle du président Volodymyr Zelensky, lui, il a fait un discours lors de la cérémonie d'ouverture, en fait, du Festival de Cannes, qui débute donc aujourd'hui. Alors, le président a parlé du film Le dictateur de Charlie Chaplin pour parler de la situation de la guerre en Ukraine et à la fin, il a eu une ovation. Il a dit « La haine disparaîtra et les dictateurs vont mourir ».
Et Sabrina, la Suède et la Finlande déposent officiellement leur candidature pour se joindre à l'OTAN, malgré la réticence d'un des membres de l'OTAN, la Turquie.
Ouais, on pourrait dire qu'ils vont tenter de boucler la boucle, c'est-à-dire que ça va se passer demain. Donc, les deux pays, la Suède et la Finlande, qui vont aller déposer directement du côté de Bruxelles, en fait, leur demande, leur soumission pour être candidat à l'OTAN. Et plus tôt aujourd'hui, le Parlement finlandais appuie à 95 % la demande d'adhésion à l'OTAN. Et justement, un petit peu plus tôt aujourd'hui, il y a Justin Trudeau qui a réagi à cette nouvelle. On peut aller l'écouter.
Finland and Sweden are choosing to join NATO. We enthusiastically support them. NATO is a defensive alliance to ensure that we are there to support each other. Yes, there's a moment of concern in terms of how long it takes before they get the full protections of Article 5.
Et là, on parle aussi de ce qui est inquiétant du côté de la Finlande, c'est que la Russie là, pourrait couper son approvisionnement en gaz dans ce pays-là, mais quand même, ça reste le prix à payer pour peut-être adhérer du côté de l'OTAN et la Finlande qui est prêt à peut-être perdre le gaz russe. Et sinon, je termine en disant que le procureur de la Cour pénale a annoncé le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs pour tenter d'en enquêter sur les crimes de guerre qui ont eu lieu là, en Ukraine depuis le début du conflit.
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
De jeunes parents vivent une situation angoissante ces jours-ci. Ils commencent à manquer de lait maternisé pour nourrir leur bébé. La pénurie touche plus particulièrement une formule de lait hypoallergène destinée aux bébés qui sont intolérants aux protéines bovines. De nombreux parents doivent faire des pieds et des mains pour trouver des solutions de rechange.
Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, à Richelieu. Puis, tu sais, c'est ça, hier, j'ai appelé à Richelieu, à Chambly, à Saint-Jean. Puis, finalement, j'ai trouvé une canne dans une grande chaîne à Saint-Jean. C'est un stress parce que là, ils disent, on en donne juste une canne par enfant. Fait que, tu sais, là, c'est bien beau, mais dans une semaine et demie, ma canne va être vide, puis je vais devoir recommencer le processus, là.
On va en discuter avec Sylvain Charlebois. C'est un spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Bonsoir, M. Charlebois.
Bonsoir.
Vous avez entendu le témoignage juste avant de vous recevoir. C'est autrement plus angoissant de manquer de lait maternisé pour son bébé que de payer ses choux-fleurs trop chers. Qu'est-ce qui explique qu'on se soit rendu là? C'est un problème dont l'origine est aux États-Unis. Comment ça se fait que ça se répercute jusqu'ici?
Oui, en fait, je suis aux États-Unis présentement, en Floride. Ça fait 6 mois que je suis ici avec ma famille. Et puis, écoutez, les tablettes sont vides. C'est le sujet du mois. Ça fait déjà un mois qu'on en parle de cette pénurie-là ici aux États-Unis. Donc, c'était une question de temps avant que le Canada soit affecté. Moi, j'ai l'impression que les choses risquent de se corser davantage dans les prochaines semaines. Vraiment, le gros problème, c'est le rappel chez Abbott. On a décidé de fermer une usine au Michigan, une grosse usine. Et Abbott est un des plus grands manufacturiers de lait en poudre pour bébés aux États-Unis. Et en fait, 98 % du lait en poudre pour bébés au Canada provient des États-Unis. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques manufacturiers, mais Abbott est le plus gros et ils ont beaucoup de difficultés à s'entendre avec la Food and Drug Administration pour s'entendre à une date de réouverture pour cette usine-là. On parle de 6 à 8 semaines.
Mais donc, le Canada dépend à ce point des importations de lait maternisé des États-Unis pour que ces problèmes de chaîne d'approvisionnement américains nous affectent ici aussi?
Oui, il y a eu des changements, par exemple, dans les dernières 48 heures. Du côté américain, on a décidé de laisser... on a ouvert la frontière à d'autres fournisseurs qui proviennent d'ailleurs, surtout de l'Europe. Même chose avec Santé Canada au Canada pour Alléger le stress, là, évidemment, les parents paniquent parce que, évidemment, lorsqu'on a un produit qui fonctionne bien avec notre bébé, on ne va pas changer. Il y a quand même des produits qui sont disponibles, mais c'est certain qu'il y a des risques. Là. Il faut consulter avec un professionnel pour savoir si la substitution va bien aller pour le bébé. Donc, c'est très compliqué pour les enfants. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au Canada, on produit du lait en poudre pour bébé. À Kingston, en Ontario, il y a une grosse usine, mais l'ensemble des produits exclusivement est expédié en Chine. Ah, donc, on transforme le lait de vache et de chèvre au Canada pour expédier le tout en Chine, ce qui est un peu bizarre, je vais vous dire franchement.
Bien, en effet, parce que c'est la demande, l'offre et la demande est... En fait, l'offre est contrôlée, bien sûr, au Canada en matière de produits laitiers. Puis là, pour ce secteur en particulier, tout ça s'en va en Chine.
Oui, évidemment. On comprend bien que le secteur laitier est un secteur extrêmement réglementé. Il y a la gestion de l'offre. On subventionne en partie cette production-là pour qu'elle soit expédiée en Chine. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche là, ici, malheureusement. Je pense que l'usine à Kingston a soumis une application pour vendre des produits au Canada. Hmm. Mais ça n'a pas encore été approuvé.
Bon, bien, c'est à suivre. On verra si ça peut aider les parents qui sont très inquiets en ce moment. Merci beaucoup, M. Charlebois, d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et même ici au Québec, la bataille est loin d'être gagnée. On reçoit l'autrice et comédienne Gabrielle Bouliane-Tremblay pour en discuter au retour. En ce 17 mai, on souligne la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. D'ailleurs, les organismes LGBTQ+ se battent pour que cette journée soit officiellement reconnue par les Nations unies. Au Québec, une quarantaine d'organismes travaillent à l'inclusion et à la reconnaissance des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Fanny Lachance-Paquette a rencontré les représentants de trois organismes montréalais pour faire le bilan du chemin parcouru.
Dans les rapports, par exemple, de ILGA, qui est une association internationale, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a une avancée générale des droits, petit pas par petit pas. Là, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais cette avancée-là crée ce qu'on appelle en anglais un backlash ou un effet de ressac, c'est-à-dire une montée des violences. Ça peut paraître paradoxal. Bien, ça s'explique en gros par le fait que plus on s'affirme, plus on prend de la place, plus on sort du placard, bien, l'homophobie qui était latente, cachée, bien, se manifeste.
Ça va faire 20 ans bientôt que je suis avec le Gris Montréal. Puis c'est sûr que les ambiances dans les classes, les ambiances dans les écoles ne sont plus les mêmes. Les questions non plus des jeunes ne sont plus dirigées vers les mêmes enjeux. Par contre, il y a toujours autant de jeunes qui souffrent dans les écoles, autant de discrimination, autant d'insultes à caractère homophobe ou transphobe, autant de milieux qui ne sont pas adaptés aux jeunes de la diversité sexuelle, de la diversité de genre.
Bien, chez Interlink, en fait, nous, notre principal service, c'est une ligne d'aide, d'écoute et de renseignement. Donc, on accueille plus d'une vingtaine de milliers d'appels de recours à nos services par année. On ne travaille pas pour rien, on arrive à des résultats, mais il y a encore énormément de détresse, particulièrement avec les derniers deux ans où la pandémie a exacerbé la santé mentale de la population en général, mais particulièrement celle des communautés marginalisées. Idéation suicidaire, comportement d'automutilation, tu sais, l'ensemble de la santé mentale.
On parle beaucoup de faire avancer la cause, mais il y a un vent conservateur qui souffle en ce moment en Amérique du Nord, je dirais. Est-ce que la communauté LGBTQ+ a peur de perdre certains de ces acquis-là?
On peut dire qu'on l'entend. Personnellement, moi aussi, j'ai ces craintes-là. Je veux dire, quand on voit les contextes sociaux, mondiaux, c'est quand même inquiétant.
Il y a un risque de recul. On l'a vu en Floride avec...
Don't say gay,
exactement. Donc, c'est quand même pas à 12 heures d'avion d'ici, là. Faut pas oublier que l'homophobie est beaucoup plus financée que l'inclusion des personnes LGBTQ+, là, au final.
À partir du moment où les droits d'une minorité sont décidés par la majorité, Je veux dire, on est toujours dans une position où bien, on est tributaire, en fait, des différents courants politiques, des différents courants sociaux. Puis ce ne serait pas la première fois que nos communautés verraient leurs droits régresser.
Je pense que s'il y a un message à passer au, principalement aux alliés, parce que c'est une journée aussi qui est faite pour le grand public, c'est aimer vos personnes, vos proches qui sont LGBT, Q+, prenez soin de ces personnes-là, appelez-les. N'hésitez pas à leur rappeler que s'ils ont des difficultés, c'est le moment de qu'ils peuvent compter sur vous.
J'accueille avec grand bonheur l'autrice et comédienne Gabrielle Bouliane-Tremblay. Elle vient de remporter le prix des libraires pour son roman « La fille d'elle-même ». Il s'agit de la première œuvre d'autofiction québécoise sur la transidentité. Bonsoir, Gabrielle.
Bonsoir.
Bienvenue et félicitations pour ce prix des libraires.
Merci beaucoup.
La Journée internationale donc contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une journée que tu vis dans le recueillement, dans la célébration, dans l'indignation, peut-être?
Bien, moi, je le vis d'une façon quand même assez stressante. Quand on regarde un peu l'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde, des lois qui empêchent la liberté des uns des autres, moi, pour moi, c'est quand même stressant. Mais je trouve ça nécessaire comme journée. Je trouve que c'est important qu'on en parle, qu'on sensibilise les gens aussi sur le fait que c'est pas gagné d'avance. Mm. Il y a beaucoup encore d'incompréhension face à l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Il y a encore vraiment de trucs à démystifier aussi. Puis la transphobie, l'homophobie, c'est des réalités qui amènent à la haine, à la violence, qui vont jusqu'à la perte de vie aussi.
Oui. Donc, bien, d'ailleurs, cette violence-là, cette perte de vie-là, c'est quelque chose qui... On sent la présence des personnes trans qui ont perdu leur vie, soit parce qu'elles se sont enlevées la vie, soit parce qu'elles ont été assassinées. Tu dédies d'ailleurs ce livre-là à toutes tes sœurs et tes frères trans disparus et à la petite Gabrielle qui ne pensait pas vivre plus loin que ses 16 ans. Ça, c'est toi.
Oui.
T'en as 31 aujourd'hui. Il y a eu tout un chemin...
Une grande épopée. Et c'est aussi, j'aime souligner l'importance d'avoir un entourage qui nous supporte parce que c'est tellement important d'être bien entouré quand on commence, on amorce une transition parce qu'il y a tellement de préjugés, d'incompréhension. Mais aussi, ce livre-là, comme le prix des libraires aussi, je le partage avec toute ma communauté parce que c'est une grande avancée pour nous. C'est vraiment, c'est nécessaire en fait que... On voit, on entend des histoires, la pluralité de nos histoires aussi.
Oui, c'est une vraie prise de parole, ce livre-là. Et parlant de prise de parole, je nous ramène à l'automne dernier. Le gouvernement Legault dépose un projet de loi, le projet de loi 2, qui prévoit à l'époque qu'une personne, pour changer sa mention de sexe sur ses papiers d'identité, devrait avoir subi d'abord des traitements médicaux ou chirurgicaux pour modifier ses organes génitaux. Tu avais fait partie des personnalités publiques qui avaient dénoncé ça. Il a changé d'idée. La semaine dernière, le ministre Simon Jolin-Barrette, ça ne sera plus le cas dans ce projet de loi-là. Qu'est-ce que tu retiens de tout cet épisode?
Je retiens qu'il n'y a rien qui est acquis. Nos droits sont toujours menacés. On doit toujours lutter pour nos droits, à notre liberté d'être aussi. Moi, ça a été énormément épuisant d'être sur tous les fronts, mais il n'y a pas que moi là-dedans. Il y a énormément d'organismes qui se sont levés, qui se sont indignés là-dessus. Le projet en tant que tel qui a changé un peu... Il reste à savoir, parce que c'est quand même très gros comme projet. Des fois, ça peut être incompréhensible pour des monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce qu'on est avec du côté juridique. Donc, mais il reste qu'il y a une avancée qui a été faite, qui est soulignée. Il y a d'autres organismes qui disent « Ah, il faut faire attention. »
Il faut continuer à surveiller.
Oui.
Puis tu dis que ça a été épuisant. Puis, tu sais, toi, tu es une artiste, tu écris, tu es comédienne. J'imagine que c'est le genre de choses qui... t'enlèves l'énergie que tu pourrais consacrer à ton art, de devoir te battre.
Bien, en fait, moi, l'important avec ce projet de loi-là, c'est que je savais qu'il y avait des vies qui étaient en jeu. Ne serait-ce que par le fait que quand on voit qu'un gouvernement pense comme ça et que ça pourrait menacer nos libertés, c'est épuisant. Jour et nuit, j'ai entendu des gens qui ne dormaient pas, qui avaient de l'insomnie. Moi-même, ça m'a atteint aussi. Donc, cette journée-là contre la transphobie, l'homophobie, elle est pour ça aussi souligner ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le livre s'intitule « La fille d'elle-même ». Lisez ça, c'est percutant. Merci d'avoir été là. La 75e édition du Festival de Cannes s'est ouverte aujourd'hui sur la Côte d'Azur. La cérémonie d'ouverture et le défilé des stars sur le tapis rouge ont donné le coup d'envoi à l'événement qui se déroule sans restriction cette année après deux années chamboulées par la pandémie. Je joins sur place le chroniqueur culturel Marc Cassivi qui couvre l'événement pour la presse. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, Noémie.
Alors, est-ce que tu as pu zioter le tapis rouge ce soir, heure de la Côte d'Azur?
Oui, oui, j'ai zioté de loin parce que c'est difficile de s'approcher avec tous les dispositifs de sécurité, mais il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment une fébrilité. Je pense que les festivaliers, les gens qui sont sur place sont contents qu'il y ait ce retour aux festivités, à quelque chose à ces rassemblements qu'on n'a pas vu depuis deux ans. Donc, il y a vraiment une fébrilité assez spéciale dans l'air à Cannes.
Bon, ça fait du bien. Quels sont les films que tu vas surveiller au cours de ces deux semaines?
Bien, il y a plusieurs films de la compétition qui m'intéressent. Il y a notamment celui de David Cronenberg qui s'appelle Crimes of the Future, qui a l'air d'un... C'est un film un peu gore, on appelle ça en anglais du body horror. C'est le retour des films d'horreur de Cronenberg avec un côté un peu futuriste. Très attendu parce que Cronenberg lui-même a dit « J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont sortir de la salle avant 5 minutes. Oh. » Donc, il met la barre assez haut là, dans l'effet de choquer ou de faire un scandale à Cannes. Il en a fait par le passé, notamment avec le film Crash. Donc, Cronenberg, très attendu, c'est le seul Canadien qui est en compétition. Sinon, du côté québécois, on est moins présent cette année, mais à la quinzaine des réalisateurs, il y a un film qui s'appelle Falcon Lake de Charlotte Lebon. Charlotte Lebon, qui est une star en France, mais qui est évidemment québécoise. Et c'est un film qu'elle a, son premier long métrage, qu'elle a tourné au Québec, sur un lac, avec des acteurs québécois et des acteurs français. Donc, très attendu, disons, par nous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont hâte de voir comment cette actrice comédienne va se débrouiller comme réalisatrice.
C'est fort intéressant. Tu parlais de la compétition officielle, donc 21 films, dont seulement 5 sont réalisés par des femmes. Et ça, ça fait jaser.
Oui, ça fait jaser depuis plusieurs années, en fait, à Cannes, parce qu'à Cannes, on refuse de, disons, faire un effort pour avoir plus une programmation paritaire, contrairement à Berlin où la dernière compétition, il y avait 7 films en compétition sur 18 qui avaient été réalisés par des femmes. À Toronto, qui est un autre des 4 grands festivals, on est en zone paritaire. Et à Cannes, on s'obstine chaque année à ne pas annoncer tant de femmes. Bon, finalement, on a fini par proposer plus de films dans la compétition parce qu'au départ, on était, je pense, à 16-17% de femmes. Là, on est rendu à 22. On joue aussi sur les chiffres. C'est un boulet que Cannes traîne, mais qu'on a l'impression, on ne comprend pas trop pourquoi, en fait, ils n'ont pas envie de remédier à la situation.
Mais ça, quelque chose
d'un peu vieille France.
Ça les écœure d'en parler, de toute évidence. En terminant, oui. Marc, demain, on aura droit en avant-première à la suite de Top Gun. À Cannes.
Oui, oui, Top Gun. Oui, Top Gun. Il y a le côté glamour de Hollywood, évidemment de Cannes. Il y a tous les films d'auteur, mais Top Gun, ce sera l'événement demain. Tom Cruise est attendu. Ce gros film de Pow Pow et tout ça, mais qui est précédé d'une rumeur assez intéressante.
On doit se quitter là-dessus, Marc. On doit se quitter là-dessus. Je te souhaite un bon festival. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Se plaindre des cônes oranges qui entravent la circulation, bien, c'est presque devenu un sport national à Montréal. Et pour cause, la gestion des chantiers routiers par l'administration Plante, dis-je, est inefficace et mal coordonnée. C'est ce que conclut la vérificatrice générale de Montréal, Michèle Galipeau, dans son rapport annuel déposé hier soir. On en discute avec l'analyste politique Justine McIntyre, ex-conseillère municipale et ancienne chef de parti à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonsoir, Justine.
Bonsoir, Noémie.
Donc, les chantiers de construction, c'est un cauchemar récurrent pour... pas juste pour les automobilistes, là, je dirais les cyclistes, les piétons, tout le monde. Et là, la vérificatrice générale dit la ville l'a échappé quelque part.
Vraiment, et c'est une bonne chose qu'elle se penche là-dessus parce qu'à chaque année, on a l'occasion, la vérificatrice, le bureau de la vérificatrice générale a l'occasion de se pencher sur différents services de la ville. Elle ne peut pas tout voir, la ville est immense. Mmh. Donc cette fois-ci, elle s'est penchée sur les chantiers et c'est une bonne chose parce que vraiment, il y a un manque de coordination et c'est ce qui a été soulevé par le rapport. Le fait que qu'on ait à gérer autant de chantiers dont seulement 30 % relèvent directement de la ville. Ça veut dire les 70 % qui restent relèvent soit de projets privés, soit de projets qui sont menés par Énergir, Bell, Hydro-Québec, name it.
Ou Transport Québec, le MTQ, gouvernement du Québec. Ouais.
Absolument. Donc, il y a tout ça à coordonner. Donc, c'est un travail immense de coordonner tout ça, mais ça relève quand même de la ville. Alors, pourquoi c'est devenu à ce point complexe? C'est ça que je ne comprends pas. On a adopté à la ville l'an dernier une charte de la gestion de chantiers à la ville de Montréal. Uh-huh. Et avec cette charte-là, on pensait avoir vraiment une meilleure collaboration de toutes les parties. Or, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On l'a vraiment échappé en quelque part. Là.
Mais il n'y a pas quelque chose d'injuste en même temps de tenir la ville responsable de la coordination des chantiers dont elle est directement, dont seulement 30 % sont des chantiers de la ville?
Non, c'est pas injuste.
C'est pas injuste.
Il faut que ça relève de quelqu'un. Et là, on a décidé que ça relève de la ville. Écoutez, c'est sur le territoire de la ville, il faut que ce soit la ville qui gère. Alors, le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à cumuler toutes ces informations-là ensemble et de faire quelque chose qui est sensé. Parce qu'il y a des impacts non seulement sur la circulation, comme tu l'as dit, mais sur le tourisme, sur notre santé mentale, sur la qualité de l'air. Il y a beaucoup de choses
à voir. Sur les affaires aussi.
Sur les affaires aussi.
Tous ces commerces qui ont pignon sur rue, sur des voies qui sont défaites.
Oui, oui.
Il y a une chose que j'ai lue aussi dans le rapport de la vérificatrice générale qui dit la ville établit des axes de mobilité où on n'est pas supposé faire des travaux pour assurer la fluidité de la circulation. Mais là, les arrondissements accordent des permis pour faire des travaux sur ces mêmes axes-là. Et ça... On parle entre la ville et les arrondissements, ça se parle pas, ce moment-là?
Ça devrait se parler, bien, c'est justement. Donc, il y a un problème de coordination. Ceux qui font les travaux ne sont pas nécessairement ceux qui les organisent, ceux qui octroient les permis, Donc, il y a tout ça à gérer, mais malheureusement, les arrondissements vont continuer à agir quand ce n'est pas coordonné avec la ville-centre. Donc, il y a toujours ce débat entre la centralisation et la décentralisation, qui a le droit de faire quoi. En arrondissement, bien, il va falloir qu'ils se coordonnent avec la ville-centre si on ne veut pas continuer à vivre ce genre de situation-là.
Effectivement. Il y a d'autres volets que la vérificatrice générale aborde, dont la politique de lutte contre l'itinérance. Mm-hmm. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais là aussi, là, il y a quelque chose d'inefficace et désorganisé.
Mais le problème qu'elle a soulevé par rapport à ça, bon, il y a un plan d'action montréalais en itinérance qui a été adopté en 2018, mais le plan n'établit pas de cible claire. Alors, on ne sait pas trop si on progresse, vers quelle cible on est en train de progresser. On sait que les besoins sont grands. Au dernier dénombrement, on a dénombré plus de 3000 personnes en situation d'itinérance à Montréal.
Mais on ne sait pas si ce qu'on fait, ça fonctionne.
Voilà, c'est ça.
Merci.
Puis on sait que c'est un problème complexe.
Tout à fait. Merci, Justine.
Merci,
Noémie. À bientôt. Les théâtres ont annoncé leur programmation complète au cours des dernières semaines et le Conseil québécois du théâtre a lancé hier la plateforme Rendez-vous théâtre pour que toutes ces programmations se retrouvent au même endroit, puis aussi pour inciter le public à retourner dans les salles. Camille Lorrain-Desjardins en a profité pour aller voir comment ça se passe dans deux institutions montréalaises, 3 mois après la réouverture des salles.
Ça va super bien. On est passé par toutes sortes de vagues d'émotions là, depuis. En ce moment, on ne pourrait pas demander mieux. Les équipes sont super enthousiastes à l'idée de monter sur scène à chaque soir. C'est vraiment quelque chose qu'on sent de très fort. Je te dirais que chez les spectateurs, il y a une espèce de sentiment de privilège aussi d'être là, de vivre un moment commun ensemble. Au niveau des ventes, bien, on est hyper satisfait. C'est vraiment au-delà de nos attentes.
Ça se passe relativement bien, oui. Après le petit coup dur là, de janvier-février, là, on a repris, puis les salles sont... pas mal pleine. C'est sûr qu'on avait beaucoup de billets de vendus en abonnement avant, donc...
Comment ça va, vous, au niveau des abonnements?
Ça va relativement bien. Je dirais que moi, je sens pas l'incertitude. Puis je pense qu'on est fait comme ça. On a traversé là, ces 2 ans-là. Moi, ce que je sens, c'est les gens sont contents. Là, on revient à une forme de normalité.
Ah oui, je trouve que c'est très important. Surtout là, le COVID vient de se terminer, donc il faut profiter au max.
Voilà, messieurs, dames, si on aime le théâtre, il faut mettre le paquet.
Ouais, j'ai hâte de sortir, mais aussi pour la culture. En tout cas, le théâtre, c'est très important.
Oui, j'étais allé voir Mademoiselle Julie au Rideau Vert. C'était très, très bon.
L'année prochaine, les abonnements à date, ça va très bien. On a beaucoup de nouveaux abonnés aussi. Tu sais, ce qui est... Et on conserve aussi beaucoup des abonnés qui étaient déjà présents l'an dernier.
Je t'avouerai qu'on a dû s'adapter aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on a fait des spectacles à plus petit déploiement, des spectacles à deux acteurs, trois acteurs. On est allé vers le théâtre documentaire. On a expérimenté aussi pendant ces années-là. On avait peur d'avoir perdu le contact peut-être avec nos abonnés ou les gens qui nous suivent depuis très longtemps. Puis ce qu'on constate pour la saison prochaine, en tout cas, c'est que c'est vraiment pas du tout le cas.
Je pense qu'il y a certaines personnes qui, oui, peut-être que la pandémie vont avoir fait qu'ils ne reviendront plus dans les salles pour X raisons. Mais il y a beaucoup de gens, on dirait, qui redécouvrent le théâtre aussi. Tu sais, on le sent.
En fait, on a annoncé la vente pour notre saison 2022-2023 à des salles pleines. Contrairement à l'année passée, où on vendait juste des demi-salles, ça avait créé des petites frustrations à nos abonnés. C'est difficile de comparer parce que depuis deux ans, on lançait des saisons, mais à demi-salle ou pas des saisons complètes.
On s'attendait à ce que le comportement du spectateur change puis que les gens soient plus enclins à acheter leurs billets le soir même ou quelques jours avant, étant donné les vagues qu'on connaît maintenant. Mais je sens chez les gens une espèce de désir d'aller de l'avant, de rêver cet avenir-là, puis de faire confiance à l'avenir aussi.
Est-ce que vous vous préparez à un scénario où il y aurait une éventuelle
fermeture? On n'en parle pas. On n'en a pas parlé.
On a vécu tous les scénarios possibles. Là, pour l'instant, pour la saison prochaine, je pense qu'on a décidé d'être un petit peu dans le déni puis d'aller de l'avant avec cette saison-là.
Non. Je pense qu'on a... Bien, on a une expertise maintenant, là. On sait un petit peu. Mais je pense que ça sert à rien. Il faut aller de l'avant.
Le prince Charles et son épouse Camilla ont entamé aujourd'hui leur tournée canadienne de 3 jours à Terre-Neuve et Labrador. Cette visite est axée sur la réconciliation avec les Autochtones et sur les changements climatiques. Le couple a été accueilli à l'Assemblée législative provinciale par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et par la gouverneure générale, Mary Simon. Charles et Camilla se rendront demain à Ottawa et jeudi dans les territoires du Nord-Ouest. Seriez-vous prêt à voter pour choisir un nouveau collègue dans votre entreprise? C'est le pari qu'a pris un employeur de la Mauricie. On vous le présente au retour. Une entreprise de la Mauricie a trouvé une façon originale de choisir ses nouveaux employés. Tous les travailleurs votent pour déterminer si un candidat sera engagé, en plus de prendre part à l'ensemble des décisions de la compagnie. Ce serait un moyen efficace pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Olivier Caron s'est rendu sur place.
Comment qu'on pouvait innover? Comment qu'on pouvait faire autrement? C'est en instaurant des processus d'embauche comme on le fait actuellement. Puis en fait, le but, c'est d'être transparent puis donner le choix aux employés de déterminer qui qu'on va avoir dans notre équipe. Donc, c'est vraiment d'impliquer les employés dans le processus décisionnel.
Le propriétaire, ici, il exige de faire la première rencontre avec moi. C'est toujours question de feeling. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir un esprit de famille et puis que l'individu qu'on va rencontrer, bien, qui fit avec l'ensemble des employés ici. Là.
L'employé est conscient dans quoi qu'il s'embarque, dans quel processus, fait qu'il sait exactement ce qui va se passer alentour de la table.
On lui fait part là, que son CV va être montré au niveau de l'ensemble de l'équipe où il va aller.
On a une période de discussion sur les lieux, mais aussi on se parle un petit peu personnellement entre chaque individu à nos machines. Puis c'est ce qui fait qu'on arrive à une conclusion à la fin.
Tous ont un carton alentour de la table, puis c'est un oui ou un non. Et puis, il n'y a aucun employé qui sort de la pièce sans savoir si cette personne-là est engagée ou non. Ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est on décide là.
On connaît plus la personne aussi. On connaît son passé. C'est intéressant de savoir son cheminement.
Ça fait en sorte qu'ils se sentent vraiment partie de l'entreprise. Ça fait un sentiment d'appartenance. Pareil comme une équipe de hockey, on s'identifie. En étant comme ça, les employés sont heureux. Les clients sont heureux, puis les actionnaires sont heureux. Fait que dans ce cas-là, c'est une combinaison gagnante, puis la production est meilleure, puis aussi bien, l'ambiance est meilleure aussi.
Ça l'aide aussi, ce côté-là, de se sentir impliqué dans les prises de décision. C'est ce qui fait qu'on a une bonne chimie entre le personnel.
L'employé, le jour 1, quand il va rentrer chez nous puis il va être engagé, bien, il va se sentir déjà accueilli. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos employés le connaissent déjà indirectement avec le processus qu'on fait. On rencontre des gens avec beaucoup d'expérience et puis ils me disent tous « Écoute, Alain, j'ai jamais vu ça. » Ils voient pas d'objection loin de là, là.
Aucune discrimination dans tous les procédés qu'on a fait ici à l'embauche. Il n'y a jamais eu question de ça. On regarde le CV, les compétences. Aussi, ce qui est important, les RH, c'est pour ça que c'est important qu'ils soient là au début de la première rencontre, c'est aussi l'attitude de la personne. OK, est-ce que le lien est bon? Puis c'est juste ça qu'on évalue.
Jusqu'ici, là, c'est extrêmement positif. Là, c'est un taux de 100 %. C'est sûr que c'est un vote démocratique. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas nécessairement. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'écouter puis d'entendre nos employés.
Je pense que ça prend de l'audace. Puis les actionnaires ont eu l'audace d'innover comme ça. Mais aussi, tous les avantages qu'on offre chez Omnifam, puis d'inclure les employés dans les décisions, ça fait en sorte que nous, on a été capable de contrer la pénurie de main-d'œuvre grâce à ça. Fait que je vais toucher du bois, mais tu sais, nous, la banque de CV est remplie. Bien, être en santé. Fait que c'est pour ça qu'on a aussi le luxe de pouvoir faire ce genre de truc-là, d'incorporer des processus comme ça, puis innover. Puis je pense que c'est une roue qui tourne. En innovant comme ça, on a plus de CV.
La pandémie a forcé de nombreux couples à mettre leur projet de mariage sur la glace, mais ça reprend de plus belle cet été. Le diocèse de Chicoutimi, par exemple, a déjà reçu des dizaines de demandes et le téléphone ne dérougit pas chez les traiteurs et les DJ de la région. Voici ce qu'a préparé Johan Gass.
Patricia, je veux me marier cet été. Est-ce qu'il y a des chances que ça arrive?
On s'entend qu'il y a un engouement pour se dire oui cet été. Donc, c'est important de faire le tour de ce qui est possible de faire avec les fournisseurs, t'sais, tout dépendant de la formule qu'on souhaite également. Donc, avant de dire que c'est pas possible, là, j'ai besoin de davantage d'informations pour bien cibler les besoins des clients.
Pour juillet, août, je suis bookée tous les samedis. Il reste quelques vendredis disponibles, puis on vient de commencer, j'ai les deux premières fins de semaine de septembre de bookée aussi. Donc, ça va quasiment au mois d'octobre, malheureusement. On en prend un par soir, un mariage. Des banquets, on en prend 5-6, mais un mariage, on en prend juste un pour se focaliser vraiment sur ce client-là. Parce que qu'est-ce qu'on se rappelle d'un mariage? On se rappelle du DJ et du traiteur. Fait qu'on veut pas se planter dans le mariage, on veut pas gâcher le mariage de personne.
Ce que je trouve vraiment merveilleux avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un gros groupe de photographes dans l'ensemble du Québec. Et puis il y a beaucoup de collègues là-dessus qui, lorsqu'ils n'ont pas de disponibilité, bien, ils se passent la balle au bon. Donc ils disent, bien, moi j'ai vraiment un client en or, j'ai pas de disponibilité malheureusement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dépanner? Puis on trouve toujours quelqu'un en fait sur ce groupe-là. Donc c'est vraiment super.
La place, souvent, on l'a. Ce qu'on a de plus de difficultés présentement, c'est de trouver des célébrants pour présider le mariage. Parce que, présentement, pour célébrer un mariage, c'est un prêtre ou un diacre. Alors, premièrement, ça serait votre paroisse qui vous dirait si on a de la place ou pas. Mais, à mon avis, il y a de la place parce que cette année, en raison de la pandémie, des gens ont retardé. Donc, ce n'est pas, comme on dit l'expression, « booké » partout, dans toutes les paroisses. Donc, il y a de la place.
Est-ce qu'il y a des mariages qui vont avoir lieu le mercredi?
Pas encore. C'est une excellente question. C'est des formules qui existent à l'extérieur un petit peu. On n'a pas obligé d'aller très, très loin. Mais ici, en région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas encore ce réflexe-là de choisir d'autres journées pour se dire oui. Le vendredi, un brunch le dimanche, ça existe, là, c'est possible de le faire. Mais on n'est pas encore rendu là. Tranquillement, on travaille pour amener les gens à peut-être faire différemment, à oser des alternatives, des façons de faire qui sont tout aussi intéressantes et qui donnent des résultats sensationnels. Se dire oui un mercredi, ça peut être aussi intéressant qu'un samedi, tout dépendant encore une fois de la formule qu'on souhaite offrir. Si on veut un mariage vraiment de 200-300 personnes, bien clairement qu'un samedi, on risque d'avoir tout notre monde versus un mercredi.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Donc, Québec pourrait nous envoyer un autre chèque en plus du 500 $ là, pour atténuer les effets de l'inflation qui nous a déjà fait parvenir.
Exactement. Alors, de notre retour d'impôt, comme on appelle communément. Mais là, ça, cette fois-ci, ça serait pour compenser la hausse du prix de l'essence. Parce que ça commence à coûter cher. Hein? 2,15 $ le litre, c'est ce qu'on voyait dans la région de Montréal hier. François Legault, qui n'écarte pas l'idée donc de ce chèque-là, c'est ce qu'il a dit lors du point de presse du côté de Laval aujourd'hui. Il réagissait à la proposition du Parti québécois de plafonner le prix de l'essence. Et ben, il ferme carrément la porte à ça. Et surtout, il ferme la porte à limiter les profits des compagnies pétrolières. On va revenir là-dessus ce soir, d'ailleurs, avec Luc Ferrandez.
Super. Et la semaine dernière, on avait beaucoup parlé d'eux, les deux petits orcas dans le fleuve à la hauteur de Montréal. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'on a des nouvelles?
On est sans nouvelles d'eux depuis 48 heures. Ce sont, en fait, les dernières nouvelles du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins qui a fait le point aujourd'hui. La semaine dernière, aux 22 heures, on avait parlé avec Robert Michaud, là, du GREM. Il a déclaré qu'une des baleines a été observée pour la dernière fois dimanche matin, environ 25 km en aval du Vieux-Port de Montréal. On espère qu'ils continuent leur chemin vers le parc marin.
Merci, Michel. Bye. Bonne émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 17 heures.